peu importe où je suis, le jour ou bien la nuit, je ne suis plus jamais seule, je n'ai plus jamais peur. Dans la nuit, je vois clair. Pas besoin de lumière. Je ferme les yeux.
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir, terre tous. Revoici Quasar on the Air sur Radio G avec Achille à la technique. Bonsoir, Achille.
Bonsoir.
Arnaud News, bien sûr.
Bonsoir, Anne. Bonsoir à tous.
Je crois que tu as une chronique, un dossier ce soir.
Alors, juste un petit dossier amusant, je l'espère.
D'accord.
Si ça nous fera rire un peu jaune.
Bon, et ben, pour la chronique et le dossier, tu gardes le suspense ou tu nous en dis un petit peu plus ?
Non, je garde le suspense.
Alors, de toute façon, le dossier c'est pour 20h30, hein. Soyez impatients. On va continuer le tour de l'équipe. Mohamed, bonsoir Mohamed, qui
bonsoir
va.
Bonsoir Anne et bonsoir tout le monde.
Qui va intervenir pendant les news.
Oui, tout à
un petit
fait.
Peu.
Oui.
Et puis ensuite, il y a moi.
Et notre.
Non, d'abord l'équipe. Et après l'invité, je sais. J'ai l'impression que je suis mal poli, mais en fait non. Et donc, il y a moi avec les news et puis quelques moyens de se guérir quand on le désire, quand on est LGBT.
Très bien, justement, je cherchais une solution.
Cette émission doit servir à quelque chose. Bon, on va pas tarder à entrer dans le vif du sujet. Stéphane est là ce soir avec nous.
Je suis l'invité masqué, bonsoir.
Et puis nous avons évidemment le public qui est encore là cette semaine.
Oui, bravo.
Bonsoir, public. Alors, on va lancer la première salve des news LGBTI+, de Quasar on the Air. Vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM à Angers, et il est 20h02. À toi, Arnaud.
Ok, on commence alors cette séquence d'actu en s'envolant pour Rio de Janeiro, mais je crois que ce n'est pas pour faire la fête.
Non, en effet, Mohamed, c'est toi qui vas nous raconter cette histoire qui est arrivée à un jeune youtubeur brésilien. On t'écoute.
En effet, je vais vous parler des youtubeurs brésiliens suivis par 34 millions d'internautes. Dans l'Express du 18 septembre, on apprend que Felipe Neto, comédien de 31 ans, a annoncé être la cible de menaces de toutes sortes, y compris de mort. Invoquant un risque imminent, il a dû annuler sa participation à une rencontre sur l'éducation. Il a annoncé dans un tweet avoir aussi envoyer sa mère à l'étranger car, comme lui, elle est menacée de mort.
Et qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça ?
Déjà, il critique la politique de Jair Bolsonaro et ça lui vaut des attaques constantes des partisans du président d'extrême droite. Mais les hostilités sont passées au cran supérieur après qu'il ait acheté et distribué gratuitement 14 000 exemplaires d'un comic à la Biennale internationale du livre de Rio de Janeiro. Il entendait ainsi protester contre la volonté du maire de la ville, le pasteur d'une église évangélique, Marcelo Crivella, de censurer une bande dessinée montrant un baiser entre deux hommes. Après divers rebondissements, le 8 septembre dernier, la Cour suprême du Brésil a annulé un ordre judiciaire autorisant le maire ultra-conservateur à saisir les exemplaires d'Avengers, la croisade les enfants du géant américain des comics Marvel. Wiccan et Hulking pourront donc continuer à s'embrasser, même à Rio. Et plutôt deux fois qu'une, puisque cette publicité involontaire a eu pour effet de faire exploser les ventes du comics. En revanche, sur les réseaux sociaux, Felipe Neto est devenu la cible d'une campagne avec le hashtag Humo Diez, parents contre Felipe Neto, en conférence, en référence pardon, aux enfants et adolescents qui forment le public de sa chaîne YouTube. Celui qui dit que mon contenu exerce une mauvaise influence sur les jeunes n'a pas vu ma chaîne, s'est défendu l'humoriste dans une récente vidéo. Et d'ajouter, je continuerai de lutter contre l'obscurantisme et l'oppression par tous les moyens. Il est attirant qu'au Brésil, en 2019, un individu soit empêché de s'exprimer et de lutter contre la censure de l'oppression et l'oppression sans être menacé. Fin de citation.
On lui souhaite de rester sous la protection des super-héros et on le remercie pour son action.
On en parle régulièrement dans la presse. Existe-t-il un gène gay ? Tu as des informations à ce sujet, Arnaud ?
Oui, dans l'Express du 29 août, on apprend que des chercheurs continuent de rechercher un gène gay. Et visiblement, ils doivent y trouver du plaisir parce qu'il n'y a pas de gène gay. Ils ont étudié les profils génétiques d'un demi-million de personnes pour conclure qu'il est impossible de prédire l'orientation sexuelle d'une personne d'après son génome. L'analyse, réalisée par un groupe de chercheurs en Europe et aux États-Unis, et dont la publication dans la prestigieuse revue Science vise à enterrer l'idée née dans les années 90 qu'il existe un gène gay. Il est de facto impossible de prédire l'orientation sexuelle d'une personne d'après son génome, dit Ben Neal, membre du Broad Institute d'Harvard et du MIT, l'une des nombreuses institutions dont sont issus les auteurs.
Et pourtant, les chercheurs disent que l'orientation sexuelle a bien une composante génétique.
Oui, ces chercheurs confirment des études précédentes, moins importantes, notamment sur des jumeaux. Mais cette composante dépend d'une myriade de gènes. Il n'y a pas de gène gay unique, mais de nombreux petits effets génétiques répartis dans le génome, explique encore Ben Neal. À cela s'ajoute un facteur essentiel, l'environnement dans lequel une personne grandit et vit. C'est une analyse qui vient éclairer un débat scientifique épineux. Comme être petit ou grand, ou plus ou moins intelligent, aimer les hommes ou les femmes n'est pas défini par un seul gène, mais par de multiples régions du génome, et comme tout caractère humain complexe, par d'insaisissables facteurs non génétiques.
Peux-tu être plus clair que l'on comprenne bien ?
Oui, je vais essayer. D'abord, les chercheurs comparent à la taille. L'effet génétique est indiscutable, puisque votre taille est liée à celle de vos parents. Mais la génétique n'explique pas tout. Votre nutrition pendant l'enfance aura un impact important. C'est ce que les scientifiques appellent l'environnement. Idem pour le risque cardiaque. Des gènes créent des prédispositions, mais votre style de vie, comme votre alimentation, a un rôle plus grand encore. L'association américaine GLAAD a salué des travaux confirmant qu'être gay ou lesbienne est une partie naturelle de la vie humaine.
Et est-ce que ces résultats sont vraiment importants ?
Oui, car au début de la génétique, en 1993, une étude sur 40 familles avait cru identifier un lieu unique, le gène XQ28, définissant l'orientation sexuelle. La nouvelle analyse réfute ce modèle simpliste qui a donc perduré 25 ans. Et cette nouvelle étude remet en cause un autre résultat, l'idée que l'orientation sexuelle serait un continuum. Selon l'échelle dite de Kinsey, du nom du biologiste américain qui l'a définie en 1948, vous savez, de 100% homosexuel à 100% hétérosexuel en passant par bisexuel. Supposer que plus on est attiré par quelqu'un du même sexe, moins on est attiré par l'autre sexe est une simplification excessive, affirment les chercheurs, après avoir comparé les marqueurs génétiques influents sur le nombre de partenaires de chaque sexe. Et on enchaîne sans transition avec du sport. Mohamed, tu nous parles football.
Oui, tout à fait, mais pas pour parler des exploits récents d'Isco, mais plutôt de la lutte contre l'homophobie dans les stades. Le 12 septembre, le site web de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, nous apprend qu'une rencontre réunissant des référents supporters et des organisations engagées aux côtés de la Ligue de football professionnel s'est tenue la veille. Un séminaire avait déjà eu lieu en juin dernier et les démonstrations homophobes de cet été, avec de trop nombreux débordements, chants homophobes et banderoles insultantes déployées par certains supporters imposant cette nouvelle lors de cette rencontre. C'est ainsi que l'association SOS Homophobie, la DILCRA, la LICRA, Yuan Lemaire et l'association Panam Boys and Girls United ont engagé une discussion afin d'initier une réflexion collective. La parole fut axée sur la sensibilisation et le débat sur l'approche à adopter pour constituer un front commun et ainsi lutter plus efficacement contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Après la polémique soulevée par les propos scandaleux du président de la Fédération française de football, Noël De Graeter, qui, je vous le rappelle, souhaite que l'on stoppe un match si des propos racistes sont scandés, mais dans les tribunes, mais pas s'ils sont homophobes. On peut considérer que cette rencontre est salutaire, je m'excuse, et espérer que cette mobilisation de tous les acteurs sportifs, civils et institutionnels permettra d'éradiquer la haine sous toutes ses formes.
À suivre donc.
Bon, sport encore cette fois-ci, mais ça va être à toi, Arnaud, de nous en parler.
Oui, pour parler de l'ex-rugbyman gallois Gareth Thomas, qui avait annoncé il y a quelques années son homosexualité, il révèle aujourd'hui, être séropositif selon Le Monde du 15 septembre. En réalité, l'ex-capitaine de l'équipe du Pays de Galles, qui déjà donc en 2009 avait été le premier joueur professionnel de rugby à 15 à faire son coming out, a été forcé de révéler sa séropositivité après le chantage d'un journaliste. C'est donc bien malgré lui qu'il devient aussi le premier sportif britannique à faire connaître sa séropositivité. Plus intéressant, le magazine Têtu nous apprend que dans un documentaire diffusé le mercredi 18 septembre sur la chaîne BBC, on le voit discuter avec son médecin qui explique alors à l'ancien rugbyman de 45 ans que si quelqu'un est sous traitement, sa charge virale devient indétectable et qu'il n'y a aucun risque de transmettre le virus à son ou ses partenaires sexuels, même sans préservatif. Le professeur qui lui répond ajoute même « C'est important que les malades laissent tomber cette idée fausse qu'ils sont contagieux ou qu'ils peuvent faire du mal à d'autres. Les gens vont bien, ils ont des enfants, ils reprennent le cours de leur vie. » Elle déplore également l'absence de campagne sur ce sujet alors que les personnes porteuses du VIH sont encore souvent stigmatisées.
Gareth Thomas dit-il ce que ça implique de vivre avec le VIH pour lui ?
Oui, il explique qu'il doit prendre un traitement quotidien et fait une analyse sanguine dans un hôpital tous les 6 mois. Je n'ai pas fait de sélection, hein. Je vous rapporte ses seuls propos et notre intention n'est surtout pas de faire croire que vivre avec le VIH est simple. Hein. Mais revenons à ses confidences sur sa séropositivité. Depuis la diffusion du documentaire, l'ex-rugbyman est devenu un symbole et un modèle dans la lutte contre le VIH et la stigmatisation des personnes séropositives. Le prince Harry et le prince William ont d'ailleurs salué son courage. « Gareth, tu es une légende absolue », a tweeté le plus jeune des deux enfants de Lady Di. « En partageant ton histoire sur le VIH, tu sauves des vies et lèves le tabou. Tout ça en montrant que l'on peut être fort et faire preuve de résilience en vivant avec le VIH. »
Voilà une communication réussie qui permet de sensibiliser sur ces questions que les médias populaires n'abordent plus. Et n'oublions pas que le préservatif reste le meilleur moyen d'éviter de se compliquer la vie et de s'abîmer sa santé.
Alors maintenant, de nouveau Arnaud, décidément, j'espère que tu as amené à boire. Tu vas nous parler de gens qui ont dit des trucs, c'est ça un peu hein.
Des gens, d'une personne en particulier. Écoutez ça plutôt. Chacun sait que la licorne est un symbole parfaitement reconnaissable de la communauté LGBT. Est-il normal de trouver ce symbole sur les cartables d'enfants ou des livres d'enfants ? Le lobby LGBT poursuit insidieusement sa propagande au sein de l'école. C'est honteux, 3 points d'exclamation. Je viens de vous lire un tweet de Madame Agnès Serigili.
Mais qui est Agnès Serigolo ?
Non, c'est Serigili, Mohamed. Alors, inconnue il y a encore un an, c'est une conseillère municipale de Saint-Germain-en-Laye, élue sur la liste La République En Marche, disait-elle, avant d'être obligée de corriger ce mensonge. Elle siège maintenant parmi les non-inscrits et est seulement adhérente de La République En Marche. Son parcours politique n'a vraiment rien d'exceptionnel. Son CV mensonger, qui lui permettait de se donner plus d'importance, a été détricoté par de nombreux médias. Quand elle dit remettre un rapport protection de l'enfance et parentalité au président Macron, en fait, l'Élysée ne lui a jamais rien commandé et elle n'a fait que déposer à l'accueil son pseudo-rapport. Quand elle brandit une invitation du président pour la cérémonie du 14 juillet, on apprend que le document, elle l'a trouvé sur le site web de l'Élysée et qu'elle a imprimé ce spécimen non valable. Les vraies invitations des vrais invités s'affichent alors sur Twitter pour la ridiculiser une fois de plus. Quand elle dit être invitée par le président lors d'un déplacement à Laval, elle s'y rend toute seule en train et est reconduite à son arrivée. Bref, elle se cherche désespérément une crédibilité à en devenir pathétique.
Alors, mais que fait-elle d'autre, Agnès Guligli ?
Non, Serigili, Mohamed. Eh bien, elle tweet à longueur de journée, plus que Donald Trump, et souvent moins intelligemment. Elle est une des rares élues à faire partie des haters de Twitter, c'est-à-dire qu'elle ne tweet que pour déverser sa haine, sa peur, ses frustrations. Les rares tweets plus amicaux sont ceux consacrés aux monuments et aux offices religieux, ou plus récemment à l'écrivain chroniqueur Yann Moix, pour lequel elle poste ceci. Je sais que Yann Moix, dans son roman Orléans, dit vrai, et qu'il a été l'enfant battu, humilié et maltraité qu'il décrit. À croire que jeune, ils dessinaient ensemble dans les revues d'extrême droite.
Et qui sont les cibles préférées d'Agnès Canelloni?
Non, Serré Guilly. Ces cibles des personnalités politiques avec un acharnement rarement vu ailleurs, hein, faut dire que Twitter permet tous les excès. Sa préférée, c'est Marlène Schiappa, qu'elle appelle la franc-maçonne sans scrupule, la misandre, ou plus souvent la pornophile à la solde du lobby LGBT. Donc la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a droit à son tweet haineux presque tous les jours, jusqu'à 4 les bons jours. En deuxième position, on trouve le photographe Olivier Schiappa, qui a signé une très belle campagne contre l'homophobie avec des couples LGBT joués par des personnalités du spectacle. On trouve aussi parmi donc ces autres personnalités qui lui donnent de l'eczéma, Gabriel Attal de La République En Marche, parce qu'il avait indiqué dans une interview qu'avec son compagnon, il envisageait d'avoir recours à la GPA. Marc-Olivier Fogiel, journaliste d'RTL pour la même raison, ou encore le jeune chanteur Bilal Hassani. Et en juin dernier, elle s'acharnait contre Julia Boyer, cette jeune femme transgenre agressée à Paris en juin par des supporters de foot et à qui elle a adressé ce message. Cher, sans eux évidemment. Chère Julia Boyer, je réprouve les violences dont vous fûtes victime. Mais quelle idée bizarre de flâner à Paris déguisée en femme, car tout en vous, prestance, visage, muscles, démontre votre virilité. Il n'y a rien de féminin en vous, pourquoi ne pas assumer ce que vous êtes? Depuis, Julia a porté plainte et le compte Twitter d'Agnès Serré Guilly a été fermé avant qu'elle n'en ouvre un autre. Les posts ont donc disparu, mais sont toujours lisibles sur la page Facebook de Julia. Ses autres cibles sont les minorités, donc les migrants, les musulmans et bien évidemment les LGBT. Enfin non, le fameux lobby LGBT, bien connu, si riche, si infiltré, si puissant.
Et que raconte Agnès Tutti Frutti nous concernant?
Eh bien voici un florilège de Serré Guilly, Mohamed, sur Twitter. Pas la peine de commenter et de faire état des fausses informations, hein, je vous les livre telles quelles, mettez votre ceinture, hein, ça va secouer. Donc sur notre symbole, l'arc-en-ciel, le lobby LGBT est misogyne, il déteste la couleur rose, la couleur qui symbolise la tendresse et la féminité, la couleur préférée des petites filles. Elle a été enlevée sciemment de leur arc-en-ciel tant leur détestation des femmes est puissante. Sur la Pride, hello belle jeunesse, votre place n'est pas à la Pride, fuyez cette parade subversive, les activistes LGBT cherchent à conquérir de nouveaux adeptes. Optez plutôt pour des activités sportives et culturelles plus saines. Bon week-end, hashtag no lobby LGBT. Sur le célèbre quartier du Marais, celui-là il est bon, hein. À Paris, le lobby LGBT a sa rue, sa boulangerie, ses restaurants, ses hôtels. Les hétérosexuels n'y sont pas les bienvenus. Il est bon d'y aller muni d'un drapeau arc-en-ciel pour ne pas être insulté ou agressé. L'État reste silencieux face à la montée de ce communautarisme honteux. Sur les actions pour lutter contre l'homophobie dans les stades, par exemple, le lobby LGBT a réussi à infiltrer le football sous prétexte de lutter contre l'homophobie. Le lobby incite entraîneurs, joueurs et même les enfants à faire leur coming out et à banaliser tout acte homosexuel. Sur le terrain ou dans les vestiaires, stop à la propagande LGBT. Sur la représentation des gays à la télé, le film « Le mari de mon mari », un père de famille de 45 ans marié depuis 18 ans à une jolie femme la quitte pour un homme qui l'épouse. Comment France 2, chaîne publique, peut-elle promouvoir le mariage homosexuel à une heure de grande écoute, scène de nu comprise? Bref, Agnès le dit, le communautarisme LGBT est un projet sociopolitique dénonçant l'hétéronormativité et imposant à ses membres un ensemble de croyances, discours, idéologies, comportements, signes distinctifs, codes culturels afin de renforcer leur entre-soi et leur auto-valorisation. Alors du coup, Agnès est sur tous les fronts, hein. La mode du piercing se développe en France dans le silence assourdissant du ministère de la Santé. La législation doit protéger d'urgence les enfants contre ces mutilations. Sur le mal-être, elle doit en connaître un rayon, Agnès. Car au sujet du livre de Marlène Schiappa, « Oser l'amour des rondes », elle dit « Quel ministre a autant vanté le sex-appeal des femmes obèses à part Madame Schiappa ? Bilan ! Le taux d'obésité, des adolescentes françaises explose. L'obésité chez les enfants est signe d'inactivité et de mal-être. Et quand la secrétaire d'État est obligée d'expliquer que le terme « enculé » scandé dans les stades est bien une insulte homophobe, eh bien Agnès lui répond « Madame Schiappa s'est trompée de métier. Elle aurait dû être sexologue. Il faut entendre avec quelle délectation elle s'exprime sur la sodomie. Le gouvernement français devrait avoir honte d'une telle ministre et de sa vulgarité pornographique. Pauvre France. » Eh oui, pauvre France.
Au fait, Arnaud, c'est plutôt Agnès Voldemort, alors.
Exactement, Mohamed.
On dirait Pipo et Bateau à la radio, tous les deux.
On s'entraîne.
Bah, ouais. C'est très
une carrière devant vous de clown, hein, je vous le dis, grâce à Tutti Frutti. Mais
et vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM à Angers, il est 20h19. Et voici donc la deuxième livraison de news, des bonnes et des mauvaises.
Pardon, Jacques Chirac est mort aujourd'hui. Une page se tourne, une époque s'achève. Cela dit, comment s'est emporté Jacques Chirac avec les homos ?
Eh bien, jusqu'au vote du Pax, ça a été assez proche de la majorité conservatrice. Il a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 et s'est opposé jusqu'à la fin au Pax. Il a même outrepassé son devoir de neutralité en intervenant encore contre le Pax alors que le Conseil constitutionnel l'examinait. Et il a en effet déclaré que, je cite, « le pacte civil de solidarité risque de dénaturer et de banaliser le droit du mariage ». Mais avec sa deuxième campagne présidentielle, en 2002, Chirac change d'avis. Certes, il reste opposé au mariage et à l'adoption par les LGBT, tout comme son adversaire d'ailleurs, un certain socialiste nommé Lionel Jospin. Par contre, avec la complicité de sa fille Claude, il va multiplier les signes aux gays. Choix de Roselyne Bachelot, qui avait défendu le Pax bec et ongles, souvenons-nous-en, comme porte-parole de sa campagne présidentielle. Interview médiatisée à têtu. Oui, bon, Chirac jouera double jeu en utilisant sa femme pour séduire les plus conservateurs. Cependant, il fera ensuite réellement avancer la lutte contre les discriminations durant son quinquennat. Avec Jean-Pierre Raffarin, qui sera le premier Premier ministre à recevoir des associations homo, il fera améliorer le Pax. Il créera la HALD. Alors, je profite de Stéphane. La HALD, c'est quoi ?
Alors, la HALD, qui n'existe plus à l'époque, c'était la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a eu comme premier président Louis Schweitzer, qui venait de Renault. Les contacts ont été très compliqués. Et puis ensuite, c'est devenu le défenseur de droit. Et aujourd'hui, c'est Jacques Toubon qui se révèle parfaitement à la hauteur dans sa mission. Merci. Malgré un passé de droite très assumé.
Bah oui, comme quoi, hein, les imbéciles qui changent pas mal.
La fonction crée l'homme, je crois, hein, franchement. Hein.
Puis ça s'appelle tout bon.
Ça peut être tout mauvais, parfois.
Donc, il créera la HALD, pénalisera les propos homophobes, aggravera les peines pour homophobie, reconnaîtra la journée mondiale contre l'homophobie, devenue aujourd'hui la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai. Tout comme la, et il reconnaîtra aussi la déportation homosexuelle. Avec sa mobilisation qu'on pourrait qualifier d'exemplaire contre le sida, à l'heure du bilan, bon, on peut oublier le premier Chirac, besoin de retenir que celui qui fut à droite, l'un des rares à lutter contre l'homophobie, même s'il n'a jamais compris l'importance du combat pour l'égalité dans cette lutte, semble-t-il. En tout cas, Jacques Chirac, requiescat in pace et nos condoléances à sa famille.
Merci Anne.
Et la loi bioéthique, je m'excuse, pardon, où on en est
avec la loi bioéthique, voilà. Non mais depuis qu'il a fait Tutti Frutti, il n'en voilà. peut plus. Hein.
Pardon.
Alors, bon, la loi bioéthique, ah là là, vaste programme. Donc, le premier article, eh bien, c'est l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Amendements en tout genre sont discutés en ce moment à la Chambre des députés, on ne va pas les détailler. Les débats semblent cependant moins houleux que pour le mariage. Et ce que j'ai noté, c'est que ça ne passe pas à la télé. C'est incroyable, ils en parlent très très peu à la radio. Alors qu'au mariage,
c'est en direct, hein, c'est pourtant en direct, directement oui, oui. sur le site de l'Assemblée nationale.
De l'Assemblée, hein.
Et
nationale.
Et on peut tout récupérer, oui, oui. tout revoir en
Mais bien
en
sûr,
replay,
mais hein. au mariage, ils en ont tous parlé, ah, oui, ils oui. ont eu des invités par millions. Et là, finalement, bon, il y a du football et puis il y a l'usine qui explose à Rouen. Voilà, c'est
moi,
plus important.
Tant mieux.
C'est bien, moi je trouve ça
oui,
pas
mal. Oui, moi aussi, je trouve ça très bien.
Alors, donc, deux groupes de femmes seraient exclus de la PMA, selon ce qui se dit. Les femmes seules et les femmes trans. Alors que les femmes seules ont obtenu 65% dans un sondage de l'avis favorable des Français, 60% seulement pour les couples de femmes...
Alors, pour les hommes trans, tu veux dire ?
Pour les hommes trans.
Les hommes trans, ça oui. C'est sûr, ça a été voté hier, l'amendement et n'est pas ça, passé. Hein. Ça,
donc
c'est
ça, c'est pas passé, ouais. Voilà. Alors, les principaux arguments des contres sont, encore une fois, on ne va pas détailler, encore la GPA, qui ne devrait même pas être discutée, puisqu'elle n'est même pas dans la loi et elle est interdite en France, rappelons-le, car ils craignent qu'elle ne suive automatiquement la PMA, parce que c'est injuste pour les hommes. Enfin, l'égalité, c'est bien. Ils ont peur aussi que les donneurs ne soient pas assez nombreux et de la filiation. Bon, les discussions seront encore longues et n'oublions pas que chaque article sera discuté à la Chambre, puis au Sénat, puis à la Chambre, enfin bref. Nous ferons une spéciale PMA lorsqu'il y aura du grain à moudre. Pour le moment, nous les surveillons.
L'Académie nationale de médecine sort un avis maintenant, après tous les débats.
Eh bien oui, l'Académie nationale de médecine estime que la conception délibérée d'un enfant privé de père n'est pas sans risque pour son développement psychologique et son épanouissement. Dans un rapport rendu public samedi dernier, l'Académie affirme que son objet n'est pas de donner un avis sur une mesure sociétale, mais estime de son devoir de soulever un certain nombre de réserves liées à de possibles conséquences médicales. Cet avis sur la loi de bioéthique a été adopté en séance par l'Académie mardi 17 septembre par 69 voix pour, 11 contre et 5 abstentions. Son rapporteur est l'ancien ministre de la Santé UMP, Jean-François Mattei. L'Académie reconnaît la légitimité du désir de maternité chez toute femme, quelle que soit sa situation, mais juge qu'il faut aussi, au titre de la même égalité des droits, tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père et une mère dans la mesure du possible. L'argument régulièrement avancé pour rejeter le risque pour l'enfant se fonde sur certaines évaluations, essentiellement dans quelques pays anglo-saxons et européens, faisant état de l'absence d'impact avéré sur le devenir de l'enfant. Mais elle ne juge pas très convaincante ces données au plan méthodologique, au nombre de cas et en durée d'observation sur des enfants n'ayant pas toujours atteint l'âge des questions existentielle. L'Académie estime que, de plus en plus malmenée par les évolutions sociétales, la figure du père reste cependant fondatrice pour la personnalité de l'enfant, comme le rappellent les pédopsychiatres, pédiatres et psychologues.
Attends, Anne, que vient faire le climat avec le sida?
Eh bien oui, climat et sida, figurez-vous. Avec le sommet Action Climat des Nations Unies qui a eu lieu donc, le 23 septembre, à New York, aux États-Unis, le constat est sans appel. Aucun pays ni continent n'est épargné par le changement climatique. Que vient faire le sida dans toute cette histoire? Eh bien, son impact est toutefois souvent plus marqué dans les régions déjà confrontées à d'autres défis. Et il touche de plein fouet des groupes vulnérables, tels que les personnes vivant avec le VIH. Lorsque le cyclone Idai a touché la côte du Mozambique près de Beira le 15 mars 2019, la montée brutale des eaux a fait beaucoup de dégâts sur des cliniques, des hôpitaux. Et cette situation aurait été une catastrophe n'importe où dans le monde, mais elle l'était d'autant plus dans la province de Sofala, où près d'un adulte sur 6 vit avec le VIH et où plus d'un a vu les flots emporter son traitement. Après la catastrophe, Madame Mia et son équipe, directrice pays par intérim de l'ONU SIDA, ont rencontré les représentants du gouvernement du Zimbabwe, la société civile, les donneurs et autres partenaires pour discuter de la riposte. Et cela s'est traduit par exemple par des coopérations avec des partenaires, dont des coparents, parrains de l'ONU SIDA, le ministère de la Santé et des Soins aux Enfants, etc. C'est vraiment parfait au Zimbabwe. Mais ailleurs dans le monde, on n'est pas toujours, c'est pas toujours la même réaction. Et Gunilla Carlson, directrice exécutive par intérim de l'ONU SIDA à Sen, nous devons toujours, aujourd'hui, considérer le changement climatique comme étant l'un des défis fondamentaux à la santé et au bien-être des populations.
Ils toussent. Allez,
pardon.
Vas-y.
T'as plus de voix.
Désolé. Bah, ne me dis pas que Barbie est homo, s'il te plaît.
Eh ben si, mais non. En fait, Barbie est inclusive, c'est mieux. L'Américain Mattel, fabricant de Barbie, a présenté hier une gamme de 6 modèles, ni filles ni garçons, dont les accessoires peuvent définir l'identité au gré des envies des enfants. Cette gamme inclusive, baptisée Creatable World, répond, selon le fabricant de jouets, à une demande de leurs jeunes clients désireux de s'exprimer librement. Concrètement, les modèles sont présentés avec différents accessoires qui les rendent interchangeables. Cheveux longs, cheveux courts, jupes, pantalons, chaussures à talons, baskets, etc. Charge à l'enfant de mélanger les styles et les identités. La ligne de poupée est conçue pour garder les étiquettes à l'intérieur et inviter le monde à entrer selon l'entreprise. Selon Time, Mattel a testé la poupée auprès de 250 familles de 7 États, dont 15 enfants qui s'identifient comme trans, non-binaires ou fluides. Ça fait déjà plusieurs années que Mattel critiquait pour diffuser à travers Barbie une représentation idéalisée et sexiste de la femme. C'est à des modèles différents, rondes, de couleur, petites et avec des métiers virils.
On va te laisser respirer, Anne, merci bien pour cette deuxième séquence d'actu. On va écouter maintenant plus qu'une devise de Tokpa Sigisa, c'est un jeune chanteur africain qui raconte son calvaire d'exilé LGBT. C'est une chanson qui est tirée du film documentaire de Quasar Enfant de Malheur que le groupe Droit d'Asile de l'association avait présenté en mai dernier. Et on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion d'une prochaine projection sur Angers, très bientôt j'espère. Plus d'infos sur enfantdemalheur.com si vous voulez et surtout pour découvrir le clip. À toi Achille.
Il est beau, Topka.
Né dans un pays qui n'aime pas ce que je suis, je fuis la guerre qu'il fait aux incompris. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Gênant pour ma mère, j'ai l'empêché de refaire sa vie. Dans ma famille adoptive, j'ai rencontré mon ami. Le même âge, les mêmes envies et le même lit. 10 ans d'histoire à ses côtés, plein d'espoir pour se réjouir. Pour se réjouir. Pour se réjouir. Pour se réjouir. Il a suffi que notre amour ne soit plus à l'abri, pour que pleuve le coup et les insultes jaillissent. Nulle part où aller, étranger dans ma patrie, même plus envie de prier, sans famille et sans appui. Né dans un pays qui me dit satanique, où l'ignorance et la bêtise augmentent les périls. J'aime se réfugier là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Sur le trottoir qu'ils me servaient de lit, ils m'ont dit hey, c'est toi qui couches pas avec les filles. Alors ils m'ont abusé et torturé cette nuit. Et dans mon sang ils m'ont laissé une maladie. Cette fois j'ai pu me relever, bafouille et meurtri. Tandis que mon ami subissait la haine de sa famille. Alors nous nous sommes retrouvés pour s'évanouir. S'aimer sans être menacé, juste vivre. Juste vivre. Juste vivre. Né dans un pays loin d'être homophile, où tu es un gay, il n'est même pas puni. Je me suis réfugié là où l'amour est libre. Liberté, égalité, fraternité, plus qu'une devise. Des ans à dormir sur des pierres, il me fallait l'argent pour traverser. J'ai dit manger et j'en suis pas fier. Mais j'ai pu m'échapper, enfin espérer arriver seul. Mon ami n'a pas touché terre, même plus de larmes pour le pleurer. Mais reste un petit sac et quelques papiers. En France, je suis venu me refuser. J'ai entendu liberté, égalité, fraternité. Ce n'est que de ça dont j'ai rêvé. Dont je rêve, dont j'ai toujours rêvé. Liberté, égalité.
Nous avons invité Stéphane, le référent juridique de Quasar, à venir nous parler d'une affaire dont nous avons beaucoup entendu parler au printemps. Souvenez-vous, le 18 mai dernier, à La Roche-sur-Yon, dans le cadre de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le village associatif, organisé par le centre LGBT de Vendée, a vu débarquer un groupe d'individus venus saccager les stands et agresser les militants présents. Certains ont eu même des ITT de 8 à 10 jours. Après l'agression, donc les associations présentes sur ce village, telles que la Ligue des droits de l'homme, l'association Aide, le Planning Familial, Familial 85, Trans Interaction et le Centre LGBT Vendée ont déposé plainte. Quasar est venu en soutien grâce à toi Stéphane, notre référent juridique, et tu as suivi l'affaire et le procès jusqu'au verdict tombé au début de ce mois. Alors est-ce que tu peux nous résumer un peu les faits ?
Très concrètement, c'est ce que tu as expliqué, c'est-à-dire c'est une manifestation dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En fin de journée, il y a un groupe qui débarque et qui se met à hurler « homopholie, ça suffit ouais. ». Mais c'est pas seulement ça, c'est que c'est accompagné, pour l'un d'entre eux, de gestes violents, de panneaux de stands qui sont jetés à terre, et un autre vole un drapeau arc-en-ciel. Mmh. Et alors ils se regroupent, ils reviennent, des gens interviennent, et tout cela est filmé.
Et on a vu ça, en effet, c'est sur les réseaux sociaux.
Alors pour la petite histoire quand même, tout de suite après les faits, nous qui étions en pleine Pride à Angers, j'ai été informé par Transinteraction, j'ai eu la présidente qui me dit « mais les policiers ne veulent pas prendre nos plaintes parce que c'est samedi, ils ont autre chose à faire ». Donc je lui ai dit tout de suite ce que tu fais, tu prends les vidéos, tu mets un commentaire bien tourné sur Facebook et tu verras qu'en deux temps, trois mouvements, ça se fera. Ça n'a pas manqué, le procureur l'a vu et exigé immédiatement que les plaintes soient prises.
Comme quoi, ça sert de temps en temps les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, c'est d'être obligé d'en passer par là.
Exact.
Et alors, on va parler des auteurs. Hein. Qui sont-ils précisément, ces individus venus perturber et agresser le village associatif?
Alors, ils sont plus d'une vingtaine, mais en réalité, il y en aura 12 hein, qui vont être poursuivis. Et ils viennent tous de la même école, c'est-à-dire l'ICES, qui est un institut catholique, droit, enfin différentes filières, et surtout études politiques, qui les prédestinent à être la future élite, n'est-ce pas, de notre bon pays.
Mmh. J'ai vu que c'était une école fondée par Philippe de Villiers en 85, je me trompe?
Mais non, pas du tout, c'est bien lui. Donc voilà, on voit tout de suite la direction que peuvent prendre les enseignements au sein de cet institut.
Alors on va revenir sur l'école et peut-être le rôle qu'elle a joué dans cette histoire, mais ces jeunes, quelles sont leurs motivations pour venir, même si j'ai des doutes, j'imagine ce que tu vas nous répondre, mais en tout cas, qu'ont-ils expliqué à la cour, notamment, pourquoi ils sont venus perturber le village?
Eh bien, il faut que vous sachiez que ce sont des grands courageux, parce qu'ils ont été incapables de bredouiller un mot intelligible et intelligent sur la motivation première de leurs gestes. C'est-à-dire qu'au départ de leurs interrogatoires, de leurs auditions, devant le tribunal, ils ont été incapables de dire tout de suite et de façon évidente, eh bien nous avons fait ça parce que nous sommes contre. Ce n'est venu que bien après, parce qu'en réalité, ils étaient très embêtés et leurs avocats les avaient bien formés là-dessus. Il ne fallait pas qu'ils apparaissent comme avoir prémédité leur coup. Mais en réalité, on a bien compris qu'ils l'avaient prémédité.
D'accord. Donc c'était prémédité. Et alors justement, puisqu'on parlait de l'Institut catholique d'études supérieures, donc tu disais qu'ils sont élèves dans cette école, enfin en tout cas ils l'étaient, 10 d'entre eux, hein, sur les 12 qui ont été poursuivis.
Et 2 ont été virés.
Alors justement, 2 ont été virés, mais est-ce que cette école a joué un rôle dans l'histoire?
Alors il n'y a aucune preuve que l'école ait poussé au crime de quoi que ce soit. Simplement, quand Quotidien diffuse une vidéo à l'époque du débat du mariage et qu'on voit un certain nombre d'intervenants qui se gaussent devant une salle, qui rigolent et qui applaudissent, comme quoi ça serait bien en France qu'il y ait effectivement les règles et les lois russes qui interdisent de faire la promotion positive de l'homosexualité, on voit bien l'enseignement qui est reçu. Quand on discute avec les étudiants qui sont venus à des manifestations pour dire leur opposition, on entend des gens qui disent « mais c'est pauvre les étudiants, ils étaient en pleine révision, tout est perturbé, leur carrière est finie ». La seule réponse que j'ai eue publiquement, c'est de leur dire « mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ceux qui sont les auteurs et qui avaient déjà ces idées, y compris dans vos rangs, soient stoppés par vous ». C'est-à-dire qu'une majorité est stoppée par une minorité. Moi, je dis qu'une majorité qui se laisse faire, c'est une majorité qui est d'accord avec la minorité qui agit.
Et alors, quelles ont été les réactions donc à La Roche-sur-Yon après ces incidents, ces agressions? Est-ce qu'il y a des personnalités, des politiques qui ont réagi, qui sont venus en soutien?
De tous bords. De tous bords, y compris le maire qui est un ancien LR, qui vraiment a été en soutien. Voilà, tout à fait. Alors son nom, je ne l'ai plus en mémoire, mais je l'ai croisé. Véritablement, on voit bien que ça a été un séisme. Dans le pays lyonnais, ça a été une stupeur en disant « mais ça, c'est pas possible que même dans un pays aussi propre que le nôtre, ces choses-là arrivent ». Et c'est pour ça que le vendredi d'après, c'est-à-dire le 24 mai, quand on a fait le rassemblement, rassemblement sur la place Napoléon, mais à l'autre bout, il y avait entre 500 et 800 personnes. Et des familles avec des gosses et tout, et qui étaient là pour dire non, ça c'est pas possible.
Oui, on est à La Roche-sur-Yon, faut le rappeler hein, quand même. Alors, on va revenir sur ces individus, on va parler du procès, puisque donc, des plaintes ont été déposées. Pourquoi seulement 12 individus ont été poursuivis, alors que tout à l'heure tu nous disais qu'ils étaient une vingtaine?
Toujours pour la même raison, c'est-à-dire que dans une affaire comme celle-ci, et il faut remarquer que 12 prévenus dans une seule, à la suite de plaintes diverses et variées, mais dans une seule affaire, c'est quand même assez rarissime. Pourquoi? Parce que le parquet, c'est-à-dire le ministère public, le procureur, n'arrive à poursuivre que ceux pour lesquels ils ont une certitude de la participation, soit avec les images, soit avec les témoignages.
Et alors, si j'ai bien compris, donc les 12 ont été condamnés pour le délit d'entrave à la liberté de réunion. L'un a été aussi condamné, donc tu le disais, pour avoir été reconnu coupable de violence. Deux autres pour vol et dégradation. Mais en revanche, ils ont tous été relaxés pour les injures homophobes, comme si le parquet ne voulait pas reconnaître le caractère homophobe.
Alors, c'est pas le parquet. Là, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est le tribunal qui ne reconnaît pas l'homophobie, mais il ne peut pas la reconnaître parce qu'en réalité, aucun des avocats et aucune partie civile, c'est-à-dire les associations qui ont déposé plainte, et le procureur n'ont poursuivi les 12 sur ce qu'on appelle la circonstance aggravante de la commission des faits, c'est-à-dire les injures ou les violences ou le vol du drapeau gay. Enfin, voler un drapeau gay, c'est bien quelque chose d'homophobe. Ou alors je me trompe. Et personne n'a poursuivi sur ça. L'explication est simple. C'est que le procureur s'est emmêlé les pinceaux. Dans un premier temps, il a poursuivi deux des protagonistes les plus en vogue et les plus en vue sur la provocation à la haine et à la violence, qui n'est pas injure. Et puis, il s'est ravisé et il a poursuivi ensuite l'intégralité des 12 sur l'injure, c'est-à-dire l'expression homopholie, ça suffit, et l'entrave, et pour certains les agressions, et pour d'autres le vol. Mais il n'a reconnu en aucun cas la circonstance aggravante. Et aucun des avocats, ça a été une grosse discussion, je devrais m'appeler Madame Irma et avoir ma boule, parce que je savais, j'avais dit aux avocats, vous verrez, ça ne passera pas. Parce que dans les arguments, c'est assez entendable. C'est une opinion politique. Ils ont le droit de dire homopholie, ça suffit. Comme nous aurons le droit de dire homo ou quelque chose du genre, ça suffit. Véritablement, c'est une expression qui est entendable, qui ne fait pas plaisir, mais on a la jurisprudence Van Est qui dit déjà que quand Van Est dit l'homophobie est inférieure à l'homosexualité est inférieure à l'hétérosexualité, ben la Cour de cassation dit c'est pas agréable, mais ce n'est pas une injure. Ben c'est le même principe.
Alors, malgré tout, hein, leurs avocats, Maître Fleury, ils considèrent que les peines sont extrêmement lourdes. Pour le délit d'entrave.
Alors ça, c'est les avocats de la défense, hein, oui. Donc des prévenus.
Et d'ailleurs, il a déclaré qu'il compte faire appel. Et puis de son côté, donc Jean-Bernard Geoffroy, qui défendait notamment le centre LGBT, attend que le parquet fasse appel de la relaxe pour injure homophobe.
Ça, c'est fait, là, ça y est.
Ça y est, c'est fait.
Oui, c'est fait.
Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, juridiquement, les parties civiles, c'est-à-dire les associations, ne peuvent pas elles-mêmes interjeter appel. Il n'y avait que le parquet, qui peut estimer qu'il n'a pas été suffisamment suivi par le tribunal, et puis par ceux qui ont été condamnés, parce qu'ils trouvent que c'est trop par rapport aux actes commis. On peut se féliciter que l'entrave ait été reconnue, mais il y a un problème juridique qu'on a soulevé à cette occasion-là, et c'est Jean-Bernard Geoffroy qui l'a soulevé, c'est-à-dire que la nouvelle rédaction de la circonstance aggravante de la commission des faits, là en l'occurrence l'entrave, est rédigée de telle sorte que pour une personne physique, c'est-à-dire toi, moi, ceux qui nous écoutent, cela peut être caractérisé d'homophobie, mais pour une personne morale d'une association, ça ne peut pas. Or, on va se retrouver confronté de plus en plus à ces situations-là, et il va falloir qu'on fasse bouger le droit sur ça.
D'accord. Merci Stéphane. Très rapidement, on peut quand même indiquer quelles sont les peines qui ont été prononcées. Je crois qu'il y a 5 de ces jeunes qui ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis, assortis d'heures de travail d'intérêt général, allant de 180 à 240 heures, et pour les 7 autres, ils ont été condamnés à 100 heures donc de travaux d'intérêt général chacun. Je crois qu'il y a eu aussi 2 mois de prison avec sursis pour l'un d'eux, celui qui a fait preuve de violence. Et pour les dégradations et le vol, je crois qu'il y a eu là...
Puis il y a des heures de travail, des tiges, hein, des travails d'intérêt général qui sont élevés quand même. Donc voilà.
Et puis 500 euros en dommages et intérêts aux associations.
Oui, et puis... aux personnes physiques qui ont été violentées.
Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, Stéphane. Alors, est-ce qu'il t'est possible, très rapidement, de nous parler d'une autre affaire que suit directement Quasar avec toi ?
Oui.
On t'écoute.
Alors, on a eu une affaire qui a été plaidée la semaine dernière devant le tribunal correctionnel de Saumur, qui est très difficile. C'est une affaire d'un homosexuel qui a été agressé chez lui. Et les auteurs de cette agression-là ont prétendu qu'il était pédophile. Et on a bien vu pendant tous les débats que ce n'était que l'homosexualité qui était visée, dans des circonstances très particulières. Mais en réalité, le parquet est électrisé par ce mot de pédophilie, alors qu'il n'y a aucun élément dans l'enquête. Mmh. Et on voit bien que ils ont été condamnés à 1 an de prison avec 18 mois de mise à l'épreuve. Mais la circonstance aggravante d'homophobie que nous avons demandé en nous constituant partie civile et que l'avocate de la victime a demandé n'a pas été retenue. Il y a les délais d'appel, on va voir ce que la victime veut faire ou pas. J'ajoute juste deux choses très rapides. Dans notre affaire du répondeur, vous savez que les insultes, oui, il y a 1 an, on a décidé que ce que le parquet avait fait, c'est-à-dire juste un rappel à la loi, en plus sur la base d'un article de loi complètement obsolète à l'époque des faits, ça ne nous satisfaisait pas. Donc nous avons fait une citation directe et elle est programmée, là, après l'audience dernièrement, au 25 novembre dernier. Et je vous informe pour le foot qu'avec d'autres associations, notamment ADEOS, MOUS et ainsi de suite, nous entamons une affaire devant le tribunal administratif contre Noël Le Graët et la Fédération française de football, parce que les articles de loi ne nous permettent pas de le poursuivre à propos de ce qu'il a dit publiquement sur France Info sur la discrimination. Mmh. Ça aussi, c'est une grande faille. Et là, on l'attaque sur un nombre important de points dérèglement de la Fédération française de football.
D'accord. Ben on prend rendez-vous pour que tu reviennes nous parler de tout ça très rapidement.
Avec plaisir.
Merci, Stéphane.
Oh là là. Pour tous ces pauvres gens, plutôt que de se faire attaquer tout le temps, il ferait mieux de se soigner.
C'est une solution, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace.
Soigner l'homosexualité, alors au fil du temps et des cultures, soit l'homosexualité n'existait pas, ça existe, c'est encore dans certains pays comme ça, était acceptée. Ou les personnes reconnues comme homosexuelles étaient condamnées à mort pour les hommes et tout simplement mariées comme il faut à un homme pour une femme. Bon. À la fin du 19e siècle et sur une partie du 20e siècle, on a vu l'émergence de l'idée que l'homosexualité n'était pas diabolique, mais bien une maladie qui pouvait donc être soignée. On inventa ainsi des procédés curatifs pour débarrasser les malades de leur maladie, pour leur bien et pour le bien de la société. Alors d'abord, les électrochocs. Ça a été un grand truc. Les premiers traitements contre l'homosexualité étant donc apparus au 19e siècle, on utilisait un outil super à la mode à l'époque, les électrochocs. Il y avait deux techniques selon la gravité de la maladie. Quelques séances d'électrochocs pour remettre le cerveau dans le bon sens dans les cas jugés bénins. Et pour les cas graves, la théorie par aversion qui consistait à leur délivrer des électrochocs au moment où passait sous leurs yeux une image d'homme pour les gays ou de femme pour les lesbiennes nues. Oui, comme dans Orange Mécanique. Les vomitifs. Toujours dans la catégorie théorie par aversion, certains préféraient les vomitifs aux électrochocs. Quoi qu'il en soit, la méthode était la même. Photo de nu égale vomi. L'overdose d'homosexualité. Ça, on se demande ce que ça peut bien être. Eh bien, je vais vous expliquer. Et ça nous dit ce que pense Monsieur Oswald de ce qui est l'homosexualité. D'après une théorie établie dans les années 60 par le psychologue britannique donc Oswald, le meilleur moyen de combattre les pulsions gays reste l'overdose d'homosexualité. Comment créer une overdose ? Il faut enfermer le patient dans une pièce remplie de verres d'urine. C'est ça l'homosexualité. Ouais, je sais. Avant de mettre à fond la bande-son de deux hommes en train de forniquer. Bien entendu, il faut avoir préalablement drogué le sujet de sorte qu'il soit pris de violents vomissements pendant l'administration du traitement. Ça mélange un peu. Ensuite, la greffe. Eugen Steinach, directeur de l'Institut de biologie de Vienne dans les années 1910, évidemment, était convaincu que l'orientation sexuelle était une question d'hormones. Pour soigner l'homosexualité, il recommandait donc l'implant de testicules hétérosexuels sur les 10 patients gays. 6. Les travailleuses du sexe. Psychiatre allemand au 19e de son état, le baron Albert von Schrenck-Nutzig avait trouvé une solution toute simple pour guérir ses patients de l'homosexualité. Les emmener voir des travailleuses du sexe pour qu'ils découvrent les bienfaits de la sexualité normale.
Bien sûr.
7. Ce même bon docteur Albert von Schrenck-Nutzig, c'est le seul où il y a deux fois son nom, c'est quand même très désagréable.
Tes souhaits.
Merci. Un grand scientifique utilisait pour ses patients l'hypnose. Il affirme que 32 cas ont été guéris grâce à cette technique. Le vélo. Ah, le vélo, je crois que c'est mon préféré. En ce temps...
Attention, tu parles à des cyclistes.
En son temps, le neurologue américain Graham Hammond... Et vous n'êtes pas guéri?
Et non, non.
Oh, ce serait faux. Graham Hammond recommandait vivement la pratique du vélo aux homosexuels qui souhaitaient sortir de leur désordre psychique. Et pour cause, selon lui, l'homosexualité était due à un épuisement nerveux que le vélo pouvait soigner en redynamisant l'ensemble des influx musculaires, nerveux et sympathiques du corps, ainsi que le bien-être apporté au cerveau par l'effort physique. En plus, ça donnait de l'endurance et un cardio épatant.
Oui, mais attention à l'abus de
bon,
pédale.
Mais par contre, il ne fallait pas arrêter de pédaler.
Voilà, on y est.
C'est ça. L'homéopathie. On a tous entendu parler de celui-là. En 2011, un scandale avait éclaté en Allemagne suite à la découverte d'une association de médecins catholiques qui proposait de soigner des gays grâce à l'homéopathie. Pauvre Juliette. Affirmant venir en aide à ceux qui se sentent dans une situation de profonde détresse, ces médecins prescrivaient à leurs patients des pilules à base de microdoses de platine et de beaucoup de glucose. Si vous en cherchez et que vous n'en trouvez pas sur le marché, essayez oxylococcinum, ça fait pareil. Mais cela dit, les homophobes vous prendront peut-être moins en grippe.
Oui, bien.
À colossal finesse. Des cours de mécanique et de maquillage. Partant du principe évident qu'un petit garçon qui joue à la poupée est forcément homo et qu'une petite fille qui ne s'habille pas en princesse est promise à une vie pas très gaie, de nombreuses associations proposent encore aujourd'hui des stages de maquillage pour les filles, de mécanique pour les garçons, parce que ce sont des activités inhérentes à leur sexe. En faisant du vélo. Non. La cocaïne et la strychnine. Là, on atteint des trucs. Ouf. Ça, le reste, c'est un petit peu... Bon, les électrochocs, peut-être pas, mais... Ce même le docteur Denslow Lewis pensait au 19e siècle que la cocaïne et la strychnine pouvaient doser convenablement, bien entendu, aider à la guérison de bien des maux, dont l'homosexualité. Ce même monsieur affirmait qu'une chirurgie consistant à enlever les parties adhérentes au vagin du clitoris, une sorte d'excision en réalité, constituait un bon moyen de guérir les lesbiennes. Le viol. La pratique du viol thérapeutique, généralement en réunion, est encore utilisée de nos jours sur des hommes et des femmes, toujours bien sûr pour les guérir de ces maladies qui les fait souffrir, délivrer leurs parents et leurs proches de la honte et la société de cette gangrène. Et enfin, pas très médical, mais encore en vogue de nos jours, au 21e siècle, l'exorcisme, car les homosexuels sont bien évidemment possédés par le diable, tout comme les épileptiques. Et les dépressifs, hein, n'oublions pas. Exorcisme moderne, la thérapie de conversion à grand renfort de prières, de douches froides, de punitions, de menaces, de sévices psychiques et physiques en réunion. Et de DVD que doit acheter le patient. Parce que comme ça, le possédé peut regarder chez lui un traitement en traitement d'entretien ou en cas de rechute. Vous voyez ? Pour info, je dis ça comme ça. L'homosexualité n'est plus considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme un trouble psychiatrique. Depuis 1990. Voilà.
Il faudrait leur dire. Et puis ça me fait penser à Agnès Sérigili, qui, une de ses insultes préférées quand on répond à l'un de ses tweets, c'est satanique.
Là, je vous signale qu'il aurait dit. On a 3 minutes pour discuter soit de ton sujet, soit de celui-ci.
Écoute. Juste pour revenir sur Agnès Sérigili, j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, il faut relativiser, hein, même si c'est une élue de Saint-Germain-en-Laye, elle est élue municipale, c'est-à-dire pas grand-chose, elle est sans étiquette puisqu'elle s'est fait rejeter par tous, et puis elle est suivie sur son compte par 11 100 personnes, donc c'est pas énorme non plus. Le problème avec ces gens, c'est qu'elle... elle est, enfin, elle dit des bêtises tellement énormes que du coup tout le monde retweet, même si c'est pour se marrer, et que du coup finalement son discours haineux, eh bien, il se répand bien plus que si elle avait des arguments ou, enfin voilà quoi. Et ça c'est un petit peu embêtant. Je peux juste ajouter.
Souvenons-nous combien nous avons ri en 2013. Enfin, en 2012.
Exactement, ouais.
En 2012, on a vraiment ri. Il nous faisait tellement rire, l'autre, avec son tricot. C'est un homme qui m'a pris une tricot et puis j'ai pas été choquée. Gna, 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 gna. Les oiseaux, enfin, le papa-maman, machin. Ils nous ont fait rire et on s'est fait avoir, mais comme des bleus. Hein.
C'est clair, on en rit encore. Ouais. Et c'est pour ça qu'on craint un peu les débats autour de la PMA. Et pourvu qu'en effet, ça ne quitte pas juste l'hémicycle et qu'on verra bien ça le 6 octobre. Enfin, en tout cas, on va pas vous dire ce qui se passe le 6 octobre si vous n'en savez rien. C'est pas la peine de faire de pub. Mais bon, en attendant, on peut craindre le pire après 2013, en effet.
Ouais, je pense que oui. Mais peut-être aussi, depuis 2013, n'est-ce pas, les enfants ont grandi.
Oui, certains.
Ils ont 6 ans de plus et il y en a certains qui doivent dire à leurs parents, vous arrêtez maintenant vos bêtises là, ouais. Parce qu'ils sont polis.
Certains étaient même dans les marches de la Manif pour tous et témoignent aujourd'hui en disant à quel point ça a été difficile pour eux de se découvrir homosexuel avec les cousins, les frères et sœurs. En étant dans ces manifestations, c'était presque tous les samedis. Donc en effet, on en entend certains aujourd'hui.
Mais c'est sûr que de toute façon, à un moment donné, ils vont sortir. Mais bon, nous aussi, il a l'air. Alors bon, bah écoutez, là, maintenant, je vais vous faire l'agenda. À moins que tu veux faire l'agenda, Gilles ? Non, pitié, non, pitié. Qui veut faire l'agenda ? Parce que j'en viens de parler à fond. Allez, Mohamed.
C'est Mohamed qui a pu s'entraîner. C'était comment, ouais. Agnès, comment Mohamed ?
Guili-guili. J'aime pas prononcer le nom.
Je me suis retenue difficilement. Désolée, c'est sorti une fois de temps en temps. Alors, y en a plusieurs, donc vous pouvez partager si vous voulez. C'est l'agenda.
On t'écoute, Mohamed.
Besoin ou envie de parler ou de boire un thé en bonne compagnie ? Quasar vous reçoit tous les samedis de l'année lors des permanences de 17h à 19h, heure à son local, 32 avenue de Chanzy, près du théâtre au même nom. Si vous souhaitez un rendez-vous individuel, contactez-nous au téléphone au 02 41 88 87 49 ou par mail centrelgbt-angers@quasar.fr. Vous pouvez aussi venir au convivial mensuel chaque troisième vendredi de chaque mois à 20h30 au local. Chaque convive apporte quelque chose à manger et à boire et nous partageons. Cousons et sangeons, il arrive même que nous chantions. La prochaine, c'est le 18 octobre. Pour ce type d'accueil, il n'est pas nécessaire d'être adhérent. Prochainement, une sortie culturelle, une visite de la
L'abbaye.
Voilà l'abbaye de la Fontevraud, c'est ça, voilà. Fontevraud, je m'excuse, Savion. Avec un guide plutôt décontracté, voilà. Surveillez les Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux pour la date et horreur. Bon, voilà. Je pense que ça va être tout, l'essentiel.
À peu près.
Oui, à peu près. Voilà.
À peu près. Alors bon, vous avez sûrement déjà vos agendas 2020. Ouais. Alors notez ceci, la Pride, c'est le 16 mai. Et puis bon, on remercie Stéphane d'être venu. Et puis la semaine prochaine, ce sera Tonics Live. Et à suivre l'émission Sons of Blues, animée par Thierry, qui est en train de se préparer. On va pas le précipiter. Tranquillement. Vas-y. Ah, il nous reste quelques minutes, alors Arnaud a quelque chose à dégainer, paf.
Oui, juste une petite page culture, enfin, si on peut dire. Je vais vous parler de ça, chapitre 2, le film d'horreur d'Andy Muschietti qui est sorti en France le 11 septembre dernier. C'est tiré de la célèbre trilogie du même nom, hein, de Stephen King. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes fan, alors rassurez-vous, je ne vais pas trop le divulgâcher ou le spoiler, je vais juste évoquer la scène d'ouverture. Et si vous avez lu les romans, vous la connaissez car elle est fidèle à l'œuvre de King. Dans celle-ci, un couple gay, joué notamment par Xavier Dolan, est attaqué par un groupe homophobe. La scène hyper réaliste est inspirée d'un fait divers de 84. Elle serait d'une violence insoutenable, composée de plans horribles qui n'épargnent pas le public. J'ai pas vu le film. Hein.
Je ne sais pas regarder.
En plus de la violence de la scène, ce qui met très mal à l'aise les spectateurs, ce sont les insultes et les rires de certains spectateurs homophobes. Alors face aux critiques outre-Manche, le réalisateur s'est défendu en indiquant avoir été fidèle à l'œuvre originale et d'ajouter que cela pourrait sensibiliser les gens au fait que des crimes motivés par la haine existaient encore. Pour lui, il est important de l'inclure car c'est quelque chose pour laquelle les LGBT+ souffrent encore. Alors pour le magazine Out, cette scène choquante n'était pas forcément utile et pour le site web The Advocate, c'est au contraire donner du pain béni aux homophobes, validant ainsi leurs fantasmes violents et alimentant nos peurs. Comme l'explique le chroniqueur, nous sommes restés sous le choc, c'est notre plus grande peur en tant que couple homo. Nous avons fui le cinéma sans voix et effrayés. Alors on peut se dire, et en France, parle-t-on de cette scène ? Eh bien, chez nous, aucun écho dans la presse, alors que le film était encore ce mardi numéro 1 de box-office. Donc je me dis que si en 2002, Gaspard Noé avait remplacé Monica Bellucci par Guillaume Canet dans son film Irréversible, la scène du viol et les violences qui s'ensuivent n'auraient peut-être sans doute pas fait autant scandale.
Oui, ouais, mais là, j'avoue, j'ai regardé un peu partout la culture et tous les films, etc. Nulle part, j'ai vu mentionner ça.
Non, c'est vrai, c'est en tout cas pas dans la presse, on va dire générale, voilà. Quelques titres gays en parlent pour dénoncer un peu. Après, le film est peut-être très bon, je ne sais pas, mais c'est regrettable de faire son ouverture sur une scène comme celle-là.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'horreur pour tout le monde et que maintenant, il faut inclure les gays dans les films. Et comme c'est un film d'horreur, ils n'allaient pas leur mettre des
bisounours. Ils y sont souvent, les gays, dans les films. En principe, c'est les premiers à mourir. mais c'est vrai. Et voilà.
Avant, dans Star Trek, c'était les types en bleu. Bon, bah, Thierry, bonne émission. Sons of Blues, c'est à vous. Salut et à dans 2 semaines. Bye bye.
Au revoir à tous.
S-O-B.